It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour, c'est Jean Berthelot de L'Aigle Été de l'équipe Podcastine. Bienvenue dans L'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews. Pendant des années, la pratique du skateboard dans Bordeaux a été problématique. Accusée de troubler la tranquillité publique, la communauté skate devait jouer avec des interdictions de skater sur certaines places du centre-ville. Mais au fil des années, les politiques publiques se sont rendues compte du rôle positif que peut jouer la planche à roulettes dans les villes. Plus qu'un sport de glisse, le skate a ses adeptes, sa communauté, sa philosophie, sa culture. Les skateurs portent un regard singulier sur l'architecture urbaine en tant que mobilier skatable. De fait, ces derniers se sont révélés être de précieux conseiller en matière d'urbanisme auprès de la municipalité. En mars 2023, celle-ci a d'ailleurs décidé de miser sur la prévention plutôt que sur la répression. Il n'y a désormais plus aucune interdiction de skater à Bordeaux. Cette liberté est le fruit d'une longue médiation entre skaters, riverains et élus qui inspirent de nombreuses villes à l'international. Le nouveau skatepark des Chartrons, inauguré en décembre dernier, a reçu le label Centre préparatoire des Jeux Olympiques 2024, avec la possibilité pour les délégations étrangères de venir s'entraîner à Bordeaux. Désormais, des skateurs du monde entier viennent pratiquer leur figure sur le sol bordelais. Ce qui était une pratique marginale est maintenant accessible au plus grand nombre, et c'est à la rencontre de cet univers que nous vous emmenons dans cette série en 4 épisodes, signée Florian Padoan. Épisode 3, les skateurs, ces nouveaux urbanistes.
Parce qu'ils sont toujours à la recherche du meilleur spot, les skateurs portent un regard particulier sur les villes et sur leur aménagement. À Bordeaux, la communauté skate apporte désormais ses conseils en matière d'urbanisme aux politiques publiques. Léo Valls, pour vous les skateurs, apporte une vision, un plus aux questions d'urbanisme. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ?
Passer des années à skater, à voyager, en fait on étudie l'architecture et on fait un peu, c'est une sorte de formation à l'urbanisme de faire du skate en ville. On passe tellement de temps dehors. Donc forcément, on commence à avoir un regard assez pointu sur tout ça. Le truc avec le skate, c'est que les skateurs, c'est vraiment les acteurs urbains, c'est des vrais acteurs urbains. Comme je te dis, on passe tellement de temps dans la rue avec notre skate comme outil de déplacement social, culturel, sportif, que voilà, on a vraiment un regard... clairement, quand tu fais du skate depuis des années, que tu passes beaucoup de temps à faire des images dans la rue, tu sais comment la ville fonctionne. Tu sais à quel moment, à tel endroit, si tu fais du skate, tu vas te faire virer, ou à tel endroit, le spot va être bouché par des bus, enfin ce genre de choses-là. Tu commences à vraiment avoir une lecture assez pointue quoi, de la ville. Et puis tu te mets à t'intéresser aussi, enfin moi ça a été le cas, aux différents matériaux qui vont être utilisés dans la ville, aux différents types de sols, différents types de bancs, à quoi l'architecture ressemble aussi. C'est vrai que moi, j'ai une pratique du skate urbaine, mais vraiment pour moi, je dis souvent, dans le skate, la star c'est la ville, quoi. Et ce qui va être intéressant, c'est de mettre en avant la ville, de mettre en avant l'esthétique urbaine des spots qu'on va skater. Et c'est ce qui rend pour moi la pratique infinie, en fait. Ce qui rend pour moi le skate infini, c'est ce côté recherche, exploration, trouver des endroits qui sont pas faits pour, et être créatif pour trouver la bonne figure sur tel ou tel spot. Et de là vient l'idée de voyager. Et c'est vrai que là, à partir du moment où on voyage avec son skate, quand on va faire du skate dans des villes comme, je sais pas, New York ou Tokyo ou San Francisco, où on va à chaque fois avoir un terrain différent et un style de skate propre qui va se développer dans ces villes-là en fonction du background culturel et architectural des skateurs locaux, là, on voit vraiment à quel point il y a un lien hyper étroit entre skate et architecture.
L'architecture de Bordeaux a-t-elle une influence sur votre manière de skater ?
La particularité de Bordeaux, déjà, c'est la couleur. On a du beige un peu partout. Et puis, il y a beaucoup de marbre et de granit. Donc déjà, les sols sont généralement très roulables et très glissables aussi. Donc on peut faire plein de slides sur les sols. Ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'ai pris du plaisir à développer dans ma ville. Et je pense qu'après, il y a cette architecture assez classique qui va être hyper reconnaissable. Et c'est vrai que quand on fait des images à Bordeaux et qu'on les montre aujourd'hui, les gens, ils voient assez vite, assez rapidement qu'on est à Bordeaux, quoi. Et c'est quelque chose qui nous intéresse, c'est de montrer le décor, en fait, l'environnement dans lequel on skate, le mettre en avant.
Alors, on l'a vu dans l'épisode précédent, le long combat mené par la communauté skate pour intégrer la pratique aux usages de la ville. Désormais, Bordeaux inspire d'autres villes, notamment à l'international.
La semaine dernière, j'ai reçu des Nikken, qui est une agence d'architecture de Tokyo. C'est la deuxième plus grande agence d'archi du monde, d'ailleurs. Et ils sont venus à Bordeaux pour nous rencontrer et faire un tour des spots de skate urbanisme ou de médiation, les projets de médiation qu'on a pu mettre en place ces dernières années à Bordeaux pour s'en inspirer et éventuellement développer la démarche au Japon. Parce qu'il y a une grosse communauté, une grosse scène skate aussi au Japon. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les skateurs japonais ont su développer un style propre de skate japonais en fonction de leur culture et en fonction de l'architecture japonaise. Et en fonction de leur culture, c'est même carrément dans la manière de faire des images, de monter, de filmer. Ils vont avoir une manière de cutter les images qui va plus se rapprocher des mangas, une manière de skater qui va être dans un style un petit peu ninja. Donc voilà, tout ça, c'est encore des choses qui montrent à quel point le skate est connecté à l'architecture locale et à la culture locale.
On sait que la ville de Bordeaux s'est adaptée à la pratique du street. À l'inverse, les skateurs ont modifié à leur tour le paysage urbain.
On a fait par exemple, c'est qu'on a installé des bancs skateables avec Bordeaux Métropole. Ils ont acheté des bancs skateables, donc c'est des bancs calibrés pour le skate, qu'on a installés sur différents espaces publics. Ce qu'on a trouvé chouette avec ça, par ailleurs, c'est que ça peut même parfois sécuriser des espaces. Il y a des endroits où, en mettant deux bancs en granit, on va ramener des skateurs et sur des lieux qui sont parfois, ça peut parfois être un peu malfamé, le skate va venir carrément donner de la vie à ces espaces-là, et du coup, c'est une forme de sécurité naturelle. En 2019, ils m'ont donné carte blanche pour travailler sur un projet culturel dans l'espace public autour du skate. Et je me suis associé avec mon ami artiste et designer qui vient du monde du skate, qui s'appelle Nicolas Malinowski, et on a dessiné un parcours de sculpture artistique skateable qui était vraiment basé sur cette idée que on se déplace dans la ville, on va d'un point A, B, C, D, E, et on peut skater un peu partout. Et avec à chaque fois des messages, il y avait par exemple, on avait dessiné un banc qui se skate, sur lequel il y avait des chaises, et qu'on avait appelé cohabitation, pour montrer qu'on peut partager les mêmes objets, les mêmes espaces en ville. Et ça a été un succès. On a eu beaucoup de gens qui sont venus de loin pour skater ces objets. Il y a eu beaucoup de communications, beaucoup de photos, de vidéos qui ont été réalisées sur ces sculptures.
Grâce au skate, le mobilier urbain se transforme en œuvre d'art skatable. On pense notamment aux trois sculptures de l'artiste Pierre Deschamps. Grégoire Grange, pour vous, le skate permet aussi aux non-pratiquants d'avoir d'autres usages de la ville.
Ce qui est intéressant, c'est d'aborder la médiation du skateboard, mais aussi la mutualisation des espaces, savoir que des spots de skateboard, on les utilise. Enfin, ces endroits, c'est des spots qui sont pas calibrés du tout pour la pratique du skate. On peut faire du skateboard dessus, mais on peut faire autre chose. Donc c'est un peu un retour à l'envoyeur aussi, c'est-à-dire que nous on utilise l'espace public, le skate, etc., etc. On se fait un peu houspiller si on fait du bruit, et puis ce qui peut être légitime parfois. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que ben, ces espaces-là, on peut les, ils peuvent être accessibles à plein d'autres personnes.
David Malinowski, vous êtes designer, également vidéaste. Comme Léo Valls, vous défendez la pratique du street. Le skate, c'est avant tout une recherche de spot, un regard posé sur la ville.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une grosse différence entre les skateparks, qui sont très bien pour ce qu'ils sont, savoir des endroits plus ou moins adaptés, alors c'est mieux quand c'est plus que quand c'est moins, plus ou moins adaptés à la pratique du skate. Là, on va en avoir un magnifique sur les quais qui est presque fini, juste à côté de là où on est actuellement. Mais c'est vraiment pas du tout la même chose que de skater dans la rue et d'avoir toute cette recherche, ce regard, cette lecture de la ville et de l'espace public qui inspire quelque chose. C'est-à-dire que la ville, à la base, elle n'est pas faite pour faire du skate. Mais par contre, comme par hasard, il y a des lieux, des recoins, des choses qui donnent une idée de figure et d'intervention dessus. Et ça, c'est pour certains skateurs une énorme partie de la pratique du skate. C'est regarder autour de soi et d'un coup, oups, trouver une idée, un trottoir qui rebique un petit peu et un sol qui a un tout petit peu d'encre qui permet de, en fait, en passant par telle direction, de faire telle figure qui peut-être va être inédite et en fait est une figure inventée parce qu'il y a ce spot qui est là, qui cette figure n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu l'endroit. Et en fait, tout est entremêlé. Bah, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure au niveau du style, au niveau du filming, au niveau des vêtements, etc. C'est tout fait. La performance, elle est globale. Elle est, et elle inclut le spot. Et donc, du coup, c'est pour ça que le skatepark, c'est très sympa. C'est très agréable de faire du skatepark. Mais grosso modo, les skateparks maintenant sont un peu les mêmes partout dans le monde. Et donc, si je vois une vidéo d'un gars super fort sur un skatepark et qu'il n'y a pas de description, je ne peux pas savoir s'il est à Hong Kong, Los Angeles ou Bordeaux. Parce que, pyramide de skatepark, ça ressemble à une pyramide de skatepark. Alors, oui, bien sûr, des skateparks plus ou moins originaux. Et c'est, encore une fois, c'est pareil, c'est très agréable. C'est très sympa souvent d'apprendre des figures dans un skatepark, parce que vu que le sol roule bien, tout est un peu parfait, etc., ça permet d'apprendre techniquement des figures dans un cadre agréable, on va dire, mais après, de les reproduire justement sur des spots inédits dans la rue.
Léna Germanès, vous êtes urbaniste et skateuse. La pratique, on l'a vu, interroge l'architecture de la ville, mais elle permet aussi de traverser différents espaces et réalités sociales.
On découvre une nouvelle manière de voir l'espace public puisque ça devient un terrain de jeu. Donc ça, c'est vraiment très chouette. On découvre la vie de tous les jours et surtout le fait que énormément de personnes se croisent qui sont vraiment différentes. On peut croiser, je sais pas, des parents avec un jeune enfant ou des personnes sans abri ou des personnes en situation irrégulière. On peut croiser des jeunes qui sont là, qui sont juste entre eux. Et en fait, on remarque à quel point la ville est vivante et diverse. Et justement, c'est ça aussi le skate, c'est vivant et divers. Entre skateurs, on est tous issus de milieux socioculturels complètement différents. Et c'est ça qui est chouette, on se réunit autour d'une même passion. Et c'est le fait d'être dans l'espace public qu'on peut tous se réunir autour de ça.
Le skate vous permet de voir la ville de Bordeaux autrement ?
Ouais, rien que hier, j'ai fait une session où on était à Belsier, donc c'est derrière la gare. Là, c'est un endroit où on croisera beaucoup plus de personnes en situation irrégulière, mais on croise aussi beaucoup de voyageurs puisque c'est là où il y a les bus qui arrivent. C'est un spot où on peut trouver des bouteilles éclatées sur le sol ou des choses comme ça. Et puis après, on est allé à Bacalan, où là, c'est complètement différent. C'est un quartier résidentiel où on croise que des jeunes familles avec des gens en vélo, avec des enfants en bas âge, où c'est très calme, les rues sont très, très safe. Enfin, c'est ça qui est chouette, en fait, avec le skate, c'est qu'on voit tous les aspects différents de la ville. dans sa globalité.
Grâce au skate, des lieux abandonnés comme l'ancien hangar militaire de Darwin sont réaménagés. Lucas Lopez, vous êtes chef de projet à la mairie de Bordeaux, chargé des espaces publics. Vous avez participé à la création du skatepark indoor de Darwin, une expérience où chacun était invité à participer.
Alors, c'est une expérience humaine extraordinaire. Parce que on est dans un lieu déjà magique, assez extraordinaire, qui était à l'époque déjà utilisé bien avant qu'on arrive, mais le fait qu'on soit ouvert officiellement, même si c'était dans son jus au départ, ça a attiré énormément de profils, on va dire, qui ont participé au projet. Donc ça veut dire des gens du quartier. Ça veut dire des skateurs de passage, des Français, des internationaux, qui étaient là aussi parce qu'il y avait la communauté skate autour de nous. Et puis des gens qui sont venus au cas par cas, des charpentiers, des plombiers, aider sur un jour, une semaine, un mois, pour contribuer au projet de manière très ponctuelle. Mais finalement, ils sont aussi l'âme du projet. Et donc ça donne des rencontres improbables tous les jours quasiment. Des modules de skate en inox qui étaient déjà présents dans la ville et qui étaient stockés sous de la terre dans un stade à Bordeaux, qu'on est allé déterrer et récupérer au démarrage du projet. La scène du Pingalan qui a été démontée et qui a servi de structure pour le premier bol de skate dans le lieu. La Pass House, donc la Pierre André Sienitzerg House, qui est la structure circulaire qui avait été présentée à la Gaîté Lyrique à Paris, qui a aussi été récupérée. Une œuvre d'art qui a été présentée au CAPC de Michel Magérus, une rampe de 50 mètres de long qu'on a démontée avec l'association La Brigade qui gère le skate et qu'on a restructurée dans le lieu sous une forme différente. Enfin voilà, il y a X exemples, quand on va dans le lieu, qui ont chacun leur propre histoire et qui ont une nouvelle histoire grâce au projet.
Récupérer des matériaux, faire avec ce qu'on a sous la main, le do-it-yourself fait partie de la culture skate. Qu'est-ce que ça apporte, cette façon de penser aux villes ?
Ah ben c'est absolument génial, parce que c'est un échantillon de ce qui pourrait se faire et ce qui se fait déjà dans certaines villes et dans certains pays, sur du mobilier urbain par exemple. Où des collectifs d'habitants proposent des aménagements urbains avec des usages, où il y a des chantiers participatifs, voilà. On pourrait appliquer ce modèle-là à d'autres usages de la ville, d'autres pratiques aussi. Ce qu'on appelle le do-it-yourself, enfin le fais-le-toi-même, quoi, en gros. Plutôt que d'avoir des mobiliers et une ville standardisée, de pouvoir être en capacité de fabriquer avec son propre imaginaire, sa propre culture, sa propre identité, ses propres usages, fabriquer une partie de la ville soi-même. Quoi.
Léo, pour vous, quels sont les défis que la communauté skate doit encore relever pour la suite ?
Voilà, pour appuyer ce qu'on fait avec la médiation, il faut continuer surtout l'intégration du skate à l'urbanisme, le skate-urbanisme, parce que ça répond aussi à la médiation qu'on a mis en place, et c'est aussi la solution pérenne pour les 10, 20, 30 prochaines années, de se dire il faut comprendre le skate comme un pack, comme dans sa globalité. Il y a un skatepark qui est hyper important pour apprendre, pour faire ses armes, comme je disais tout à l'heure. Il y a de la médiation pour la ville, pour les endroits qui peuvent être conflictuels, que ça se passe bien sans avoir besoin d'interdire le skate, parce que ça marche pas. Et puis après, il y a des espaces publics, il y a la ville qui intègre, lorsque c'est possible, le skate dans la conception des emménagements. Donc tout ça, il faut continuer de le développer. Pour moi, on est juste au début. C'est vrai que c'est... On est souvent content de voir que c'est devenu un exemple en quelques années, ce qui a été mis en place à Bordeaux. Mais pour moi, on n'est qu'au début, quoi. Il y a énormément de choses à faire. Et après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que ce qui a été mis en place à Bordeaux continue d'être un exemple pour d'autres villes et qu'on puisse venir épauler, aider d'autres collectivités ou d'autres assos ou crews de skateurs dans d'autres villes, dans d'autres pays.
Le skate, on l'a vu, a fait sa place dans les rues de Bordeaux. Il interroge notre rapport à l'espace public. Il permet de créer des projets collectifs et sociaux. Autrefois pratiqués par une marginalité, on l'a vu, le skate est désormais de plus en plus populaire. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment les skateuses se sont emparées de la planche à roulettes et bousculent les codes de cette pratique.
Merci Floriane Padoan, c'est la fin de cet épisode de podcasting L'Actu dans la Poche, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara Etchari, Myrène Garaïco-Echea, Agathe Hernier, Raphaël Larder, Raphaël Oranbuch et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Taïeb, iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est L'Actu dans la Poche.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.